Chers auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, votre magazine qui traite les questions de la vie au quotidien. Quels sont les critères à remplir pour faire des études post-universitaires au Canada, les études de master ou de doctorat au Canada? Nous en parlons avec Emmanuel Kambi, il est cofondateur et directeur général d'Étudis, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des personnes qui désirent étudier au Canada. Bonjour Monsieur Emmanuel.
Oui, bonjour Monsieur Tassi.
Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-6394. Je rappelle le numéro 081-890-6394. C'est pour les appels en direct. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez-nous vos questions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous entendons également vos commentaires dans les courriels dénommés service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente ces numéros sous la supervision et la coordination de Jean-Marc Matouaki. Blaise Chindani Cordon réalise cette émission et Jean-Noël Mokondo s'occupe de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces numéros d'Okapi Service.
Le 42 502, c'est Radio Okapi dans votre téléphone par un simple appel au 42 502. Une fois sur le 42 502, vous avez le choix entre différents programmes. En tapant le 311 pour le journal, la revue de presse au 312, le flash info au 313, le 321 pour le sport, la chronique santé au 322 et Banane Doulée au 323. Le 42 502, c'est Radio Okapi dans votre téléphone, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois au 42 502, uniquement pour les abonnés Vodacom.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Par manque de débouchés au lendemain des études supérieures et universitaires en RDC, nombre de candidats détenteurs de diplômes, de graduats et de licences souhaitent aller poursuivre leurs études de doctorat ou de master au Canada, qui est un pays qui offre des opportunités d'études et d'intégration sociale des lois meilleures comparativement à plusieurs pays de l'Occident. Quels sont alors les critères à remplir pour faire des études post-universitaires au Canada, les études de master ou de doctorat au Canada? Et que faut-il faire pour réussir son intégration académique et sociale? Nous en parlons avec Monsieur Emmanuel Kambi. Et nous rappelons qu'il est cofondateur et directeur général de Tudi, qui est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des personnes qui désirent étudier au Canada. Monsieur Emmanuel, dites-nous, première question, quelles sont les possibilités qui sont offertes par les études post-universitaires au Canada? Donc, je disais, les études de master ou de doctorat.
Oui, en tout cas, déjà, merci infiniment pour l'opportunité que vous m'offrez d'intervenir directement sur Radio Okapi. Je tiens à souligner, à saluer plutôt les auditeurs et les auditrices de Radio Okapi, parce que la question qui est posée, elle est très, très bonne. Effectivement, lorsqu'on finit les niveaux des graduats ou de la licence au pays, il y a beaucoup de possibilités qui sont offertes ici au Canada. On peut venir effectivement étudier directement au niveau de la maîtrise ou au niveau du deuxième cycle qu'on appelle donc maîtrise. Lorsqu'on parle du deuxième cycle, c'est pas seulement la maîtrise, il y a aussi ce qu'on appelle ici les diplômes d'études supérieures spécialisées. La durée c'est un an, la maîtrise c'est deux ans. Et quand on parle aussi de la maîtrise précisément, on parle de la maîtrise qu'on peut faire de type professionnel, c'est-à-dire qu'on est destiné à aller directement sur le marché du travail, ou la maîtrise du type recherche. Là vraiment on va faire la recherche afin de pouvoir poursuivre vers les doctorats.
Quel est alors le processus d'admission qu'il faut suivre pour arracher une inscription au niveau des universités canadiennes?
Oui, la première étape, c'est vraiment de pouvoir se demander si on remplit toutes les conditions pour pouvoir poursuivre les études universitaires, notamment les études au niveau des cycles supérieurs, donc maîtrise et doctorat. Donc, on va d'abord identifier le bon programme d'études. Donc, et quel est le programme que je veux poursuivre, qui cadre avec mon historique scolaire que j'ai fait au pays. Et après, voilà, il y a tellement d'universités ici. Donc, il faut savoir identifier la bonne université qui va nous permettre effectivement d'obtenir à la fois la bourse, l'admission et pourquoi pas même des stages rémunérés qu'on appelle ici stages coopératifs. Et les inscriptions se font en ligne, c'est vraiment essentiellement en ligne. Si quelqu'un vous dit « je vais faire pour vous, envoyez-moi tel papier », c'est pas tout à fait vrai, parce que ça s'est fait vraiment essentiellement en ligne. Tout est numérisé ici. Et généralement, il faut effectivement remplir un certain nombre de documents. Il faut avoir notamment le passeport, il faut avoir déjà les diplômes du premier cycle, donc on appelle graduat en licence au pays. Il faut avoir évidemment aussi les relevés de notes. Et à propos des relevés de notes, c'est très important. La fourchette des critères d'admission au niveau de la maîtrise, par exemple, on doit avoir une note qui est située entre 62% et 70%. Dans d'autres universités, ça peut aller jusqu'à 75%, donc 75%. Et donc ça, c'est très important d'avoir déjà des critères, parce que si on ne remplit pas ces critères-là, qu'on appelle 2.7 sur 4.3, ben on risque de se voir imposer une année supplémentaire qu'on appelle la propédétique, c'est-à-dire qu'on ne vous admet pas directement à la maîtrise, mais on vous admet dans une année préparatoire, à condition de réussir cette année préparatoire avec une note pratiquement de 70%, donc de 70%, pour ensuite être admis au niveau de la maîtrise. Et puis le doctorat, c'est pratiquement la même chose.
Ben, est-ce qu'on peut avoir une idée sur la durée des traitements des dossiers?
Oui, alors pour la durée des traitements des dossiers, ça va varier d'après plusieurs critères. Mais généralement, lorsque on s'inscrit à la maîtrise ou au doctorat, il faut compter entre 4 et 6 mois pour avoir vraiment la réponse, parce que ça passe par plusieurs étapes. Et comme c'est très, surtout les maîtrises et les doctorats type recherche, c'est très exigeant, parce qu'il faut avoir un professeur qui va encadrer votre mémoire ou votre thèse. Il faut fournir beaucoup de documents, notamment les lettres de recommandation. Il faut fournir la lettre de motivation, les projets de recherche. Et donc, ça prend vraiment du temps. Il faut vraiment compter entre 4 mois et 6 mois pour pouvoir avoir la réponse. D'où l'importance de s'y prendre longtemps à l'avance et de ne pas les faire très, très précipitamment. Et je tiens aussi par ailleurs à rappeler qu'il y a deux principales sessions où on peut s'inscrire lorsqu'on vient étudier à la maîtrise ou au doctorat. C'est à la session d'hiver qui commence au mois de janvier et à la session d'automne qui commence au mois d'août. Et d'où l'importance donc de commencer le plus tôt possible pour s'assurer d'avoir vraiment une place autant soit à la maîtrise ou soit au doctorat.
Monsieur Magnol, pouvez-vous nous faire une idée sur les frais, les coûts liés à cette première étape de démarche?
Oui, alors, lorsqu'on n'a pas bénéficié d'une bourse d'exemption de droit de scolarité, selon les ententes conclues entre le Québec et les pays francophones, dont la RDC, ou qu'on n'a pas non plus bénéficié d'une bourse d'excellence, malheureusement, on est obligé effectivement de payer quand même les mêmes frais de scolarité que les étudiants d'ici au Canada. Exception faite au niveau du doctorat. Je reviendrai au niveau de la maîtrise. Au niveau du doctorat, toutes les personnes qui sont admises au niveau du doctorat vont bénéficier effectivement d'une bourse d'exemption de droit de scolarité. Ça signifie ils vont payer pratiquement les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois. Sur 3 ans de doctorat, ben, s'ils font la rédaction, ça peut aller jusqu'à 5 ans, mais sur 3 ans d'études, eh bien, ils vont payer autour de 15 000 $, entre 15 et 20 000 $, dépendamment des universités. Ça, c'est au niveau du doctorat. Au niveau de la maîtrise, en revanche, les frais sont un peu élevés. Si je compare plusieurs universités ici, eh bien, les prix varient dans une fourchette comprise entre 43 000 $ et parfois jusqu'à 48 000 $ sur 2 ans d'études au niveau de la maîtrise.
Et il faut payer la totalité de ces montants avant de commencer les cursus, les études?
Non, on paye par tranche. Donc on va payer par ce qu'on appelle ici la session, donc une période de 4 mois. On va payer par tranche. Et donc à chaque session de 4 mois, on va payer une partie jusqu'à ce qu'on va éponger tout le montant qui est normalement prévu pour le programme au niveau de la maîtrise ou du doctorat.
Mais est-ce que Monsieur Manuel, est-ce qu'il y a des bourses qui sont également allouées aux étudiants, aux candidats, aux étudiants étrangers au niveau du Canada?
Absolument, il y a effectivement beaucoup de bourses d'ailleurs. Il faut quand même préciser que les bourses sont des mesures complémentaires aux ressources financières dont on dispose déjà. Donc la bourse ne va pas remplacer les frais de scolarité, mais la bourse va compléter l'argent que les parents ou que l'étudiant dispose déjà pour pouvoir financer les études au Canada. Parce que beaucoup de gens ont cette confusion-là en disant, bon, donc est-ce qu'il y a une bourse en pensant que bourse égale gratuité? La bourse n'est pas synonyme forcément de gratuité. La bourse est beaucoup plus synonyme de complémentarité des frais de scolarité dont disposent déjà les parents. Ceci dit, oui, je confirme qu'il y a effectivement des bourses, notamment au niveau de la maîtrise. Il y a deux principaux types de bourses. Il y a vraiment la bourse d'excellence. Souvent, ce genre de bourses peut être attribué soit par l'université, on appelle ça des bourses institutionnelles, Et les montants peuvent aller plus loin, hein. Ça peut aller jusqu'à 28 000 $, hein, vous imaginez. Et au niveau, ensuite, vous avez la bourse d'exemption des droits de scolarité. Ça signifie que vous payez les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois. Et quand je parle des mêmes frais de scolarité, donc c'est autour, au lieu de payer autour de, disons, 11 000 $ à peu près par session, ben, vous payez autour de 1 800 $ par session. Ce qui quand même réduit considérablement la charge. Et donc, c'est vraiment les deux principales bourses au niveau de la maîtrise. Maintenant, au niveau du doctorat, eh bien, vous bénéficiez automatiquement de la bourse d'exemption des droits de scolarité, parce que c'est vraiment le but du gouvernement du Canada et du Québec en particulier, c'est d'encourager les gens qui ont un profil de chercheurs, des gens qui vont apporter une contribution significative à la société dans leur champ d'expertise. D'où cette mesure qui a été décidée au niveau du gouvernement de vraiment donner des bourses d'exemption à tous les étudiants qui sont au doctorat type recherche. Mais il faut aussi préciser que cette bourse va entrer en vigueur dès lors que l'étudiant aura été accepté et aura obtenu tous les documents dont le permis d'études et les visas. Ça ne s'applique pas avant d'avoir obtenu ces documents, ça s'applique après avoir obtenu ces documents. Et donc, en d'autres termes, il faut d'abord prouver au gouvernement du Canada que vous disposez des frais, vous disposez de l'argent plutôt pour payer l'essentiel de vos frais de scolarité avec ou sans bourse. Ça, c'est très important.
Je vous garde en ligne, monsieur Emmanuel. Dans cette émission, nous donnons également la parole aux auditeurs, hein, à la population. Donc, il est temps pour nous d'aller au standard pour donner la parole à la première vague des auditeurs. Il y a déjà un auditeur qui nous a appelé depuis la ville de Kinshasa. Quels sont les critères remplis pour faire des études post-universitaires au Canada, pour faire le master ou le doctorat au Canada? Nous en parlons dans cette première tranche d'Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94. Je rappelle le contact, 081-890-63-94, c'est pour les appels en direct.
Festival Sans Voix pour la Paix. Ensemble, faisant vibrer nos voix au rythme de la paix en RDC. Le 22 octobre, à partir de 12h, au village Iossi à Goma, en marge de la célébration de la Journée internationale de la paix. Au menu, un grand chœur de 100 choristes qui chantent à l'unisson pour la paix au Congo. Et une collecte spéciale sera organisée en faveur des déplacés de guerre. Le festival Sans Voix pour la Paix Gospel Mass Choir for Peace, célébrant tous ensemble la paix par le gospel pour un Congo fort et prospère.
Monsieur Malonga, bonjour, vous nous appelez de Kinshasa?
Oui, bonjour Marcel, bonjour notre invité.
C'est plutôt Tati à l'antenne, à vous Tati, la parole, Tati. Allez-y.
Ok, merci beaucoup d'abord. Je vous remercie avec ce sujet d'épanouissement. Bon, ça va, j'ai suivi très bien avec l'attention notre invité. Je me suis vraiment stoppé là aux frais académiques. Il y a de 15 000 pour le master, doctorat pour les quarantaines de 1 000. Bon, ma question est celle-ci. Moi, je vais comparer. Ici, chez nous, si on paye beaucoup, au premier cycle, on ne peut pas même atteindre les 2 000 $. Au deuxième cycle, on ne peut pas atteindre même 3 000 $. Mais là, de 15 000, 42 000, est-ce que dans ces frais-là, il y a la charge de l'étudiant, le logement et tout ce qui dépend de la vie vraiment sociale de l'étudiant, ou bien seulement on paye et l'étudiant lui-même se loge et puis dépend de lui-même de sa vie. Alors il donne seulement, il paye seulement et puis il reste en soi-même comme ça. Bon, deuxièmement, j'entends ceci, si on étudie ici, on part avec le titre de graduat ou bien de licence là-bas, mais on minimise nos qualités ici, on minimise les diplômes. J'ai suivi l'invité, il a dit qu'il y a une année préparatoire. Oui, même ici aussi, on prépare. Est-ce que nos diplômes ici, nos qualifications, sont bel et bien considérées telles que nous les recevons ici, ou bien il y a quelques complications avant d'être inscrit encore là-bas. Merci beaucoup, en tout cas, Tati, et merci beaucoup à l'invité.
Je vous en prie, Malonga. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Kinshasa. Monsieur Emmanuel, comment répondez-vous directement à Malonga qui nous a appelé depuis la ville de Kinshasa? Est-ce que le montant, les frais académiques couvrent tout le besoin, les logements, la ration alimentaire, l'achat des syllabus et autres?
Ces deux questions posées par Monsieur Malonga sont d'une extrême importance parce qu'effectivement, c'est là où il y a beaucoup de
confusion. Excusez-moi, il y a un autre auditeur qui est en ligne, donc on lui donne la priorité, parce qu'on est censé les écouter. Monsieur Firmin, vous êtes à Idiofa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Allez-y, il y a d'autres auditeurs qui attendaient à vous la parole. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces sujets?
Vraiment, j'avais presque la même idée avec monsieur Malonga, mais quand même, je voulais savoir la bourse octroyée pour le gouvernement du Canada pour un étudiant. C'est trimestriel, annuel ou mensuel?
Merci beaucoup, merci beaucoup, Monsieur Firmin Gouachi. Vous intervenez depuis Idiofa. Emmanuel, comment répondez-vous à Malonga et à Firmin de Idiofa?
Oui, je vais commencer par les questions de Monsieur Malonga. Effectivement, je disais tout à l'heure que c'est très important. Les questions qu'il a posées sont d'une extrême importance parce qu'effectivement, ce que j'ai dit à propos des frais de scolarité, déjà c'est des frais qui couvrent la période de 2 ans pour la maîtrise, donc les 43 à 45 000, et les 15 000 c'est vraiment les 3 ans du doctorat. Ces frais n'incluent pas ce qu'on appelle ici au Canada, ça n'inclut pas les frais de subsistance, c'est-à-dire manger, boire, se loger, se promener. Ça, ce ne sont que des frais strictement de scolarité. Okay. Le Canada calcule que sur un an, il faut avoir approximativement 15 000 dollars. Sur un an, il faut avoir à dépenser 15 000 dollars dans tout ce qui est logement, nourriture, déplacement, tout ça. Donc, c'est pour cela que j'ai dit souvent aux gens, à côté des frais de scolarité, il faut ajouter les frais de subsistance, 15 000 dollars par an. Vous allez faire 2 ans, ça fait 30 000 dollars. Et il faut aussi ajouter les frais des billets d'avion, ainsi qu'effectivement les frais d'assurance maladie, hospitalisation, si votre établissement n'offre pas cela dans vos frais de scolarité. Donc, le tout, la facture peut grimper assez rapidement. Et donc, je précise vraiment qu'effectivement, ce n'est pas inclus, les frais des subsistances ne sont pas inclus dans les frais de scolarité. Deuxième question, c'était par rapport aux diplômes. Est-ce que les diplômes avec lesquels on vient du Congo sont considérés au Canada? La réponse est oui, ces diplômes sont considérés. Cependant, ce qui pose problème, c'est souvent au niveau des notes. Parce que même si quelqu'un a obtenu une licence avec 53%, mais si le Canada exige une note de 62%, pour pouvoir être admis à la maîtrise ou exige une note pareille pour être admis au doctorat, vous comprenez que vous allez être admis, mais avec conditions. C'est ça dont j'ai parlé.
Oui.
Et c'est là qu'on va peut-être vous proposer de pouvoir faire la propédétique, c'est-à-dire un an, enfin, ça peut être quelques mois, 4 mois ou 6 mois ou un an, c'est le maximum, pour faire l'année préparatoire, afin d'acquérir les bases nécessaires que vous avez peut-être manqué au niveau du premier cycle pour ensuite affronter avec succès les deuxièmes cycles. La question de Monsieur Firmin est très importante. Est-ce qu'il a demandé, est-ce que la bourse est attribuée sur base mensuelle, semestrielle, annuelle? En fait, la bourse est attribuée généralement sur base annuelle. Donc, on vous donne une bourse, on vous dit, c'est pour 2023, par exemple. Mais si vous réussissez à maintenir la moyenne qui est exigée, si vous continuez à étudier à temps plein, et si vous continuez aussi effectivement à rester dans les profils de recherche, dans ces cas-là, on va renouveler la bourse pour la prochaine année. Donc, il y a toujours des conditions qui sont posées pour pouvoir renouveler la bourse. Je connais des étudiants personnellement qu'on a accompagnés qui ont obtenu des bourses au niveau collégial. Et ensuite, la bourse a été suspendue parce que l'étudiant a échoué à plusieurs cours. Et donc, il a fallu mettre en place un plan d'accompagnement à la réussite éducative pour permettre à l'étudiant de pouvoir de nouveau redemander la bourse afin de pouvoir continuer ses études.
Donc, oui, mais ce n'est pas parce que... Monsieur Manuel, donc, si on arrête la bourse, donc, vous devez le payer avec votre argent, c'est ça?
Exactement, oui.
Nous allons évoluer dans notre entretien, Monsieur Manuel. Alors, quelle démarche d'immigration entreprendre lorsqu'on a arraché l'inscription?
trois phases. La première phase, dès lors que vous avez effectivement obtenu l'admission. La deuxième étape, maintenant, ça consiste, si vous êtes au Québec, hein, c'est différent. Si vous venez au Québec, il y a une procédure supplémentaire que si vous allez en dehors du Québec. Si vous venez au Québec, vous allez pouvoir demander ce qu'on appelle le certificat d'acceptation du Québec. CAQ. C'est un document, effectivement, qui vous permet de venir étudier ici au Québec, qui coûte, à l'heure où je vous parle, $124 canadiens, à peu près, je crois, 95 ou 6 dollars américains. Et une fois que vous avez obtenu ces documents dans un délai de 20 jours, c'est le délai légal de traitement de ce dossier, vous allez ensuite demander, effectivement, les permis d'études. Mmh. Et les permis d'études, c'est le document le plus important, parce que si vous n'avez pas les permis d'études, même si vous avez les visas, ben, vous n'allez pas étudier au Canada. Et les permis d'études, actuellement, où je vous parle, c'est à peu près $150. Et il faut compter entre 3 mois et 4 mois pour l'avoir. Officiellement, c'est 3 mois, mais avec les délais, il faut vraiment compter jusqu'à 4 mois pour pouvoir l'avoir. Et vous allez aussi faire la même demande, troisième étape, du visa. Donc, vous faites la demande du permis d'études et la demande du visa au même moment. Et quand on vous répond, on vous recevez ce qu'on appelle la lettre d'approbation. On vous dit, voilà, vous avez été approuvé, votre permis d'études a été approuvé. Et après, quand on vous approuve, on va ensuite vous demander de pouvoir aller déposer votre passeport auprès de l'OIM. Et là, on va pouvoir ensuite apposer dans votre passeport le visa. Et le visa vous permet de voyager vers le Canada. Mais le permis d'études va vous être délivré une fois arrivé à l'aéroport et après avoir passé une entrevue avec un agent des services frontaliers à l'aéroport. C'est à ce moment-là que, si vous réussissez à répondre aux questions, qu'on va pouvoir vous délivrer à main propre les permis d'études. Mais pour voyager, vous allez avoir besoin du visa et d'une lettre qu'on appelle la lettre d'introduction. C'est-à-dire cette lettre d'introduction, je ne sais pas pourquoi on l'appelle, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle au niveau du gouvernement du Canada. Mmh. La lettre d'introduction vous permet de dire, il a obtenu le permis d'études, qui va lui être délivré au Canada, mais pour voyager, ben, ce document fait foi du permis d'études.
Donc, à vous comprendre, Monsieur Emmanuel, il faut s'y prendre à temps. Si on a un projet d'aller étudier au Canada, il faut mettre, par exemple, une année pour les démarches.
C'est l'idéal. Plus vous vous y prenez tôt, Tati, mieux ce sera pour vous.
Je retourne au standard, Monsieur Charles. Charles, vous êtes à Bounia, bonjour.
Bonjour Tati, bonjour à tous les
amis. La ligne Sénégal est là où vous êtes, Monsieur Charles. Déplacez-vous un tout petit peu pour améliorer la qualité de l'audition.
Ça va, au moins.
C'est pas très intéressant. Essayez encore de vous déplacer de là où vous êtes un tout petit peu.
Là, je bouge.
Oui, allez-y.
Ok, ça va. Je salue les auditeurs avec les auditeurs qui sont en certain moment. Bon, je viens de suivre par rapport à ce qui est donné là comme explication, par rapport à ceux qui ont l'habitude d'avoir tous ces cours des études au Canada. Bon, ma question, moi, supposons comme si on fait des plusieurs résultats de ce qui est de l'année 2022-2023. Supposons le lauréat qui répond sur cette question. Supposons celui-ci, c'est à ce que tout est arrivé au Canada. Et par rapport à ce que vous venez de nous dire, pour ce qui est de prêt à payer, supposons pour les masters, c'est $15,000 si je viens de pour toute une année, et les $40,000 pour le doctorat. J'espère que c'est ça.
La liaison n'est pas assez bonne avec Bounia, Monsieur Charles. La réalisation tâchera de vous relancer. Hein. La liaison se dégrade et c'est pas très intéressant. Mais j'ai écouté les fonds de votre pensée que je vais résumer pour l'invité. Je pense que vous voulez savoir les montants à payer pour quelqu'un qui a obtenu un diplôme d'État, le baccalauréat ici au pays, s'il veut aller étudier au Canada. Est-ce que le montant à payer est le même? Est-ce que les démarches à entreprendre sont les mêmes? Donc l'invité aura le temps de répondre à votre question. Shadrach, vous êtes en Boujimaï, bonjour. Monsieur Shadrach, malheureusement il n'est pas en ligne, on va tâcher de rappeler Monsieur Shadrach qui a voulu intervenir depuis la ville de Boujimaï. Monsieur Emmanuel, comment répondez-vous à l'auditeur de Bounia, Charles?
Oui, alors Charles a demandé si les frais de scolarité pour quelqu'un qui vient d'avoir les diplômes d'État sont équivalents. elles sont équivalentes à celui de la maîtrise. Non, c'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, les frais sont beaucoup plus élevés. Il faut dire que quand vous finissez les diplômes d'État, vous avez deux options. Soit vous pouvez aller étudier au niveau collégial, soit vous pouvez aller à l'université. Et ici, au collège, vous avez deux volets. Vous avez les collégiales techniques, c'est-à-dire que vous allez faire un programme technique de 3 ans, dont la finalité est d'intégrer les marchés du travail. Je prends par exemple quelqu'un qui dit, écoutez, moi, je viens de finir en biologie et chimie, je pense maintenant l'appel scientifique, je m'intéresse à la médecine, qu'est-ce que je peux faire? Ben, il peut faire, par exemple, ici, l'échographie. Il peut faire une technique en échographie. Au bout de 3 ans, la personne peut intégrer effectivement les marchés du travail comme technicien en échographie.
Okay.
Ou la personne peut aussi faire un programme de un volet de 2 ans, toujours au niveau collégial, mais qu'on appelle ici collégial pré-universitaire. C'est-à-dire que le but est d'acquérir les bases nécessaires pour poursuivre les études à l'université. La deuxième option, c'est d'aller directement à l'université. Et à ce moment-là, il va choisir un programme qui lui convient. Les programmes du premier cycle à l'université sont des programmes de 3 ans, qu'on appelle ici chez nous baccalauréat. Les frais de scolarité, pour vous donner juste une idée, au niveau collégial, si on choisit les volets de 2 ans, on va payer autour de 7 000 $ par session et quelques poussières. Et si on choisit les volets de 3 ans, ben c'est entre 9 000 et 10 000, presque 11 000 $. Ça dépend maintenant de quelle technique qu'on appelle biologique, c'est-à-dire qui inclut les soins infirmiers. Ça, c'est à peu près 11 000 $ par session. C'est-à-dire par an, vous allez payer autour de 22 000 $. Si vous faites et les programmes des soins infirmiers en passant, donc les programmes techniques biologiques, donc les 3 ans, c'est pratiquement 66 000 $ qu'il faut compter. Donc, ce que je suis en train de, pour résumer ma pensée, c'est qu'au niveau collégial, vous allez payer un montant qui équivaut entre, effectivement, 28 000 $, donc ça, c'est-à-dire les volets de 2 ans. 2 ans, ça signifie, on paye en tout cas 7 000 sur 4 sessions, ça fait 28 000. Ou vous allez payer 66 000 $ si vous faites les volets de 3 ans. Maintenant, au niveau universitaire, c'est encore beaucoup plus cher. Parce qu'à l'université, les prêts de scolarité vont varier entre 11 000 $ et 15 000 $ par session. C'est-à-dire entre 22 000 $ et 30 000 $ par année. Imaginez si vous faites un programme de 2 ans, si c'est 15 000 $ par année, donc ça fait effectivement autour de... Si moi, c'est 15 000 $ par session, donc 30 000 $ par an, ben, ça signifie que c'est 60 000 $ sur 2 ans. Et sur 3 ans, ben, ça monte assez rapidement. Ça peut aller jusqu'à 90 000 $ ou 90 000 $. Donc oui, malheureusement, ça coûte très cher le premier cycle d'études universitaires au Canada. Donc si on vous dit non, ça coûte 1 000 $, ça n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est que vraiment les études au niveau du premier cycle à l'université peuvent aller jusqu'à 90 000 $ et ça dépend encore des filières, parce que ceux qui vont aller dans les génies, génie chimique, génie électrique, génie mécanique, peuvent aller payer jusqu'à 120 000 $ sur une période de 4 ans, évidemment.
Oui, je reviens sur ma question rapidement, Monsieur Emmanuel, s'il faut récapituler. Oui. Hein, une fois qu'on a arraché l'inscription, les démarches à entreprendre, et dès qu'on arrive à destination, dans la ville d'accueil, par où commencer?
Mais normalement, quand on arrive sur place, la première étape, c'est de trouver l'appartement. Parce que c'est la chose la plus difficile actuellement, d'autant plus qu'il y a une crise des logements au Canada. Donc moi, j'ai dit aux gens... Commencez à chercher l'appartement dès lors que vous avez votre admission. N'attendez pas d'avoir les visas, les permis d'études pour commencer à chercher l'appartement.
Parce que Monsieur Emmanuel, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, on retourne au standard. Hein. Il y a un auditeur qui est en ligne, donc on lui donne la parole et puis nous allons revenir dans les sujets. Monsieur Bofelo, vous nous appelez depuis la ville de Kisangani. Bonjour.
Bonjour, Monsieur le journaliste.
À vous la parole.
Bonjour. Oui, monsieur le journaliste, je voulais tout simplement poser la question à l'orateur du jour. Quelles sont les conditions placées au vu des candidats? Est-ce que tous les diplômes universitaires ou des établissements privés sont sollicités? Et quelles sont les modalités des pourcentages?
Merci beaucoup, Monsieur Bofelo. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kisangani que vous intervenez. Monsieur Emmanuel, comment répondez-vous à la question de Bofelo et vous allez revenir sur une fois arrivé, les conditions pour avoir les logements et autres?
Oui, j'ai pas bien saisi la question. Il a demandé si les diplômes obtenus dans les écoles privées sont sollicités.
Sont également acceptés.
J'ai pas compris.
Si les diplômes obtenus ici au niveau du pays, les diplômes d'État au fait, sont également acceptés, voilà, par rapport au niveau d'études de tout ça.
En effet, les diplômes d'État sont acceptés. Il faut ensuite aussi ajouter à cela, évidemment, les relevés de notes ou les bulletins de notes des trois dernières classes du secondaire, donc 4e, 5e et 6e. Et j'ai dit souvent aux gens, ces diplômes, ces relevés de notes ou ces bulletins, il faut les légaliser. C'est d'une extrême importance de les légaliser pour qu'ils soient acceptés au Canada. Quand je dis légaliser, c'est-à-dire qu'aller à une mairie ou, je sais pas moi, à une autorité compétente pour avoir les sceaux certifiés conformes à l'original. Et quand vous avez cela, effectivement, vous allez pouvoir monter les dossiers pour la demande du permis, la demande plutôt d'admission. Oui, je confirme qu'ils sont acceptés, oui.
Je reviens sur ma question. Il faut arriver à destination, logement, recherche et logement. Et une fois qu'on a le logement, on s'installe.
Oui, une fois vous avez le logement, vous vous installez. L'installation n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de différences culturelles entre nous qui venons du Congo et les Canadiens. Et souvent les gens vont quand ils arrivent, ils vont passer par quatre phases. La première phase, on appelle ça la phase des lignes de miel, c'est-à-dire c'est la phase où tout semble être beau, tout est merveilleux, tout est excellent, mon rêve est réalisé. Et ça ne dure pas longtemps parce que juste après on tombe dans la phase qu'on appelle effectivement choc culturel, parce que là on se rend compte que la réalité n'est pas
la même.
La vie est chère. Et après on va pouvoir s'adapter parce que là on va tisser des liens avec des gens qu'on rencontre sur place.
Exactement.
Et finalement on va pouvoir s'intégrer dans la ville, dans la vie communautaire et la vie sociale aussi. Donc le plus important, c'est d'avoir un réseau qui va vous permettre de vous accueillir, de vous donner des bonnes informations et surtout de vous accompagner dans votre cheminement de la première session académique. Et c'est exactement ce que nous faisons au niveau du cabinet étudie.
Quels sont les préalables ou les critères à remplir pour faire des études post-universitaires, les études de master ou de doctorat au Canada? Nous en parlons dans cette première tranche d'Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour prendre la parole en direct.
Festival Sans Voix pour la Paix. Ensemble, faisons vibrer nos voix au rythme de la paix en RDC. Le 22 octobre, à partir de 12h, au village Iossi à Goma, en marge de la célébration de la Journée internationale de la paix. Au menu, un grand chœur de 100 choristes qui chantent à l'unisson pour la paix au Congo. Et une collecte spéciale sera organisée en faveur des déplacés de guerre. Le festival Sans Voix pour la Paix Gospel Mass Choir for Peace, célébrant tous ensemble la paix par le gospel pour un Congo fort et prospère.
Cette fois-ci, nous allons à Dilolo pour donner la parole à Monsieur Benjamin, à qui nous disons bonjour.
Journaliste, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Oui, quelle est votre question, Monsieur Benjamin? On vous écoute.
Merci beaucoup. Je voudrais savoir, parmi les conditions que l'invité a données, j'ai pas suivi la condition d'âge. Et quel est l'âge qu'il faut pour avoir accès à ces études au niveau de Canada? Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, est-ce qu'il y a-t-il des structures bien connues pour encadrer les étudiants en provenance de l'Afrique en général ou les étudiants en provenance de la RDC en particulier? Est-ce que ces structures existent pour les accompagner afin d'atteindre les objectifs?
De très bonnes questions, Monsieur Benjamin. Monsieur Emmanuel aura le temps de répondre à tes deux questions. Bonne journée à Dilolo. Monsieur Roger, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Monsieur Tati et bonjour à notre invité.
Oui, on vous donne la parole, allez-y.
Ouais. Monsieur Tati, moi je pourrais un peu demander à notre invité, parce que ce que j'ai remarqué par rapport avec le master et les doctorats qui se passent vraiment dans notre pays, on ne dépense pas vraiment beaucoup par rapport au Canada. Vous pouvez aller même à comme il vient d'évoquer un peu les montants là. Mais moi je demande, qu'est-ce qui fait que dans notre pays, le master et le doctorat c'est moins cher et au Canada c'est cher comme ça? Même, ce n'est pas même seulement au Canada, il y a plusieurs pays, même comme aux États-Unis, le pays de l'Europe, même le pays de l'Amérique, c'est vraiment cher. Qu'est-ce qui fait que au niveau de ces pays-là, que le master et le doctorat, que ça puisse être cher? Et puis, je voudrais peut-être demander à notre invité, par rapport si parfois votre pays vous donne un peu les bourses pour aller étudier même au Canada, est-ce que vous serez vraiment obligé de contribuer avec quelque chose ou bien c'est l'État lui-même qui pourra prendre aussi ça en charge?
Merci beaucoup, Monsieur Roger Marcel. Ta sous-question, je pense que ne concerne pas les sujets qui fait l'objet de ces rendez-vous d'Okapi Service, mais la première question, l'invité va répondre. Hein. Nous allons cette fois-ci à Kisangani. Il s'appelle, pour donner la parole à Zachary. Zachary, bonjour. Monsieur Zachary, vous êtes en ligne depuis Kisangani. Malheureusement, la liaison s'est interrompue là. Emmanuel, comment répondez-vous à nos auditeurs, hein, le monsieur Benjamin de Dilolo, qui a fait allusion au critère âge?
Oui, alors à propos de l'âge, il faut dire que au Canada, on peut venir étudier hein, jusqu'à 55 ans, même 60 ans, on peut venir étudier. Parce qu'ici, il y a ce qu'on appelle l'université du troisième âge. Ça, c'est pour des gens qui ont 65 ans et plus. Donc, l'âge, il n'y a pas vraiment un critère qui est fixé au niveau de l'âge. T'as aussi longtemps que vous avez un âge minimal de 18 ans. Et vous avez jusqu'au-delà, si je peux l'exprimer ainsi, dépendamment de là où vous voulez venir étudier. Il a posé une deuxième question, est-ce qu'il y a des structures qui existent pour encadrer des étudiants qui viennent du Congo?
Oui,
il y a des structures. Moi, je suis directeur général du cabinet Étudie. Étudie, ça s'écrit avec Y, E-T-U-D-Y, Étudie. Nous sommes donc un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des personnes qui désirent venir étudier au Canada. Et nous prenons en charge toutes les procédures, depuis le choix d'un bon programme d'études, parce que je suis conseiller d'orientation et de formation, et membre de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Donc, depuis les choix d'un bon programme d'études, jusqu'à ce que la personne puisse arriver au Canada, en passant par les démarches d'immigration, laquelle aéroport, l'intégration, l'installation, la recherche du premier emploi étudiant, on prend tout en charge, effectivement, pour l'étudiant. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens qui ne se font pas accompagner rencontrent beaucoup de difficultés. Et malheureusement, même les arnaques sont issues du fait que les gens ne sont pas bien informés. C'est ça ce que je peux répondre à cette question-là. Pourquoi c'est cher au Canada?
Oui. Attends, Monsieur Emmanuel, je vais revenir à vous. Hein. Oui. Donnons d'abord la parole à l'auditeur qui intervient depuis la ville de Kisangani. Il s'appelle Zachary. Bonjour. Zachary?
Merci,
voilà, allez-y.
Bonjour. Oui, je suis allé. Bonjour la Radio Capi, bonjour aussi à notre invité. Moi, ma préoccupation, c'est celle-ci. Je vous appelle depuis la ville de Kisangani, la province de la Tchopo. Alors, l'émission m'a tellement intéressé. Alors, sauf que je voudrais savoir, parce que vous savez, quand les enfants viennent à l'université, il y a les enfants des pauvres, il y a les enfants des riches, il y a les enfants de ceci, cela. Et il y a de ces enfants-là qui sont venus de la famille vraiment démunie. Alors, avec le peu de moyens, il vient avec sa conscience, termine l'université avec un grand pourcentage. Et juste fini l'université, il traîne avec son grand pourcentage là-bas, et des occasions pareilles. Et quand j'entends parler des 15 000 dollars de ceci, cela, tout ça, il n'a même pas obtenu la bourse d'études au troisième cycle, tout ça. Bon, est-ce que y a-t-il pas moyen aussi d'avoir l'idée par rapport à la catégorie de ces enfants-là? Mais il a brièvement fini l'université, mais dépourvu de moyens, même faire le troisième cycle sur place dans une université du Congo ici, en tout cas, ça lui revient difficile. Bon. C'est ça un peu. Alors, la chance est accordée seulement à la classe supérieure, ou soit les affaires démunies aussi peuvent accéder par tel ou tel moyen. Donc, c'est ça un peu ma préoccupation.
Merci beaucoup, M. Zakari. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kisangani que vous intervenez. Cette fois-ci, donnons la parole à Pierrot. Pierrot, il a Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Tati, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi, bonjour à notre invité, c'est Chris Kiron Pagnan, je suis à Lubumbashi bien sûr.
Allez-y.
Moi j'ai deux préoccupations seulement. La première, hein, j'aimerais savoir, est-ce que dans cette université-là, il existe aussi des cours en ligne? Ça c'est la première fois, question, comment se procéder pour étudier en ligne? La deuxième question était de savoir si, parce que selon la présentation, l'invité a dit qu'il y a des formes ou des types d'enseignement, c'est-à-dire il y a ce qu'il a appelé les baccalauréats et ce qu'il a écrit études normales. Alors, c'est ce qu'il nous a dit que il faut suivre normalement les cours. Où on donne les cours aussi de soins infirmiers. Alors, si quelqu'un est déjà professionnel de santé, comment il peut faire pour avoir aussi cette notion seulement de l'échographie, pour se spécialiser en échographie seulement, mais en suivant le cursus normal? Ça, c'est aussi une question. Et par rapport à d'autres structures, parce que moi, par exemple, j'ai suivi une formation de deux semaines, où on nous a donné des brevets par des structures aussi qui sont à l'étranger. Ils ont leurs personnes qui viennent ici au pays former. Et c'est là que moi j'ai aussi eu une formation en échographie. Nous avons fait pendant des semaines et nous avons été brevetés. Alors, est-ce qu'eux aussi peuvent aussi fonctionner comme ça pour aider ceux-là qui n'ont pas assez de moyens? Parce que dans les 9000, vous savez, la conjoncture actuelle, dans les 9000, 20000 pour suivre un cursus normal, c'est peut-être casser les yeux de tête. C'est là que nous demandons qu'il y a aussi des moyens pour faciliter et aussi accorder des bourses à ceux-là qui manquent des moyens, mais qui se sont distingués dans leurs écoles où ils proviennent. Je dis et je vous remercie.
Oui, Monsieur Pierrot, dites-nous s'il vous plaît, vous êtes un personnel soignant?
Oui, je suis un personnel soignant ici à Lubumbashi.
Depuis combien d'années?
Je suis dans la pratique depuis 2011, mais j'ai décroché mon diplôme en 2010 et 2009-2010.
Merci beaucoup. L'invité aura le temps d'éclaircir, hein, de répondre à tes préoccupations. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Lubumbashi. Cette fois-ci, allons à Mbujimayi pour donner la parole à Shadrack, à qui nous disons bonjour.
Oui, bonjour Radio Capi, bonjour à M. Emmanuel, bonjour à tous les invités, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Allez-y rapidement, on n'a plus assez de temps.
Oui, merci beaucoup parce que j'ai bien suivi notre invité par rapport aux critères. Je suis très préoccupé par rapport à la constitution des dossiers. Il a parlé des certificats, le permis d'études et la demande de visa. Je voulais savoir s'il y a autre chose. Ça, c'est de 1, de 2.
Oui. Allez-y, on vous écoute.
Oui, la deuxième préoccupation, je voulais savoir par rapport au montant. Il m'a dit pour le master, il a dit si vous avez au moins $15,000 pour les séjours pour 230,000. Alors, si j'ai au moins une partie, comment je peux procéder? Si j'ai une partie en banque, ou bien j'ai 20,000, ça peut aller, ils peuvent m'aider. Et aussi, je suis en Mbujimayi, j'ai une licence en droit. Je voulais aussi faire le master. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent me conseiller? Je vais commencer par où et comment leur cabinet peut m'aider? Si je peux prendre contact avec lui, afin qu'il m'aide. De trois. Pour terminer, est-ce la session de l'autre côté? Ça commence de quelle année et de quel mois ou de quel mois et ça finit quand? Si je suis en retard ou si je suis dans les bons, si je peux commencer. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur Shadrack. Je rappelle que c'est depuis Mbujimayi que vous intervenez. Emmanuel, je préfère que vous répondiez directement d'abord à Monsieur Shadrack, hein, de Mbujimayi, parce que c'est vraiment une question très orientée.
Très bien. Alors, la première question, c'est quoi les documents pour constituer les dossiers? Monsieur Shadrack, vous avez besoin de votre certificat de naissance, de votre passeport, vous avez besoin effectivement de vos diplômes que vous avez obtenus, ainsi que de vos relevés de notes. Ce sont les quatre principaux documents. Maintenant, pour votre admission au niveau de la, au niveau de, du master en droit ici, vous pouvez ajouter à cela effectivement la deux lettres de recommandation et une lettre de motivation, et ainsi que votre CV. Donc, si vous avez ces documents que je viens de citer, vous avez déjà l'essentiel pour constituer votre dossier. Mmh. Vous avez demandé aussi si vous avez une argent en banque, vous avez la moitié de ce que j'ai dit, hein, pour deux ans, c'est 15 000 $ des frais de subsistance, sur deux ans, ça fait 30 000 $. Si vous avez la moitié, est-ce que vous pouvez quand même être accepté? La réponse est oui. D'après les critères du gouvernement, il faut prouver qu'on a minimalement un an, l'argent pour payer un an de frais de subsistance, c'est-à-dire 15 000 $. Les restes, vous pouvez travailler à temps partiel au Canada et pouvoir financer effectivement votre logement, votre nourriture, ainsi de suite. Parce qu'on peut travailler jusqu'à 20 heures par semaine. C'est ce que le gouvernement donne comme droit aux étudiants internationaux de travail au Canada grâce au permis d'études. On n'a pas besoin de permis de travail pour travailler au Canada comme étudiant. On a besoin juste de permis d'études. L'autre question, c'était... ça commence à quel moment la session? Ben, vous pouvez, il y a deux sessions. Hiver commence au mois de janvier. Donc, il faut commencer à faire.
Et là, vous voulez savoir s'il est en retard ou pas?
À l'avance. Mmh.
S'il veut savoir s'il est en retard ou pas pour la session prochaine.
Il est en retard. S'il veut étudier, ce serait pour la session d'automne 2024, donc août 2024. Okay. Et les inscriptions sont en cours. Nous pouvons avoir le plaisir, effectivement, de l'accompagner dans ces démarches. L'autre question maintenant de Monsieur Pierrot, c'était les cours en ligne. Oui, Monsieur Pierrot, vous pouvez faire des cours en ligne par ce qu'on appelle ici Télé-Université, qu'on appelle en sigle TELUC. TELUC, c'est une université québécoise qui offre tous les programmes en ligne. Donc, si vous avez besoin d'aide là-dessus, ben, tout à l'heure, Monsieur Tati va pouvoir vous donner nos coordonnées. On pourra vous accompagner. Vous avez aussi demandé si vous pouvez vous spécialiser dans quelque chose de précis. La réponse est oui. Il y a des structures. Nous-mêmes, nous accompagnons des gens qui veulent se former pour des formations de une semaine, de deux semaines, de un mois, de deux mois, dans le but, effectivement, de vous permettre d'avoir des attestations. C'est des attestations pour la formation spécialisée que vous avez suivie ici. Et nous sommes en partenariat avec plusieurs établissements d'enseignement où on va chercher les meilleurs professeurs pour pouvoir vous monter un cours sur mesure et vous donner la formation qui sera sanctionnée par une attestation de formation.
Et à l'auditeur de Kisangani, Zachary, les parents qui n'ont pas assez de moyens, l'étudiant, il a brillé à l'université, il termine avec 70%. Malheureusement, il envisage aussi aller étudier au Canada, mais les moyens font défaut. Est-ce que il n'y a pas de mesures pouvant permettre à ces gens de candidats de pouvoir aussi étudier au Canada?
Tout à fait. Alors, c'est possible de pouvoir étudier au Canada, Monsieur Zachary, mais je tiens à préciser quand même qu'il y a un minimum. Je vous donne juste un exemple concret. Lorsque un tel élève a brillé au niveau de l'examen d'État, cette personne peut venir étudier, peut participer au concours de bourses au niveau des formations professionnelles. Ce concours de bourses se passe à chaque, au début du mois de juin de chaque année, okay, jusqu'à la fin du mois de juillet. Et même pour participer à ce concours, notamment parce qu'il y a deux bourses d'exemption, il faut avoir 15 000 $ dans les comptes, bourse d'excellence, il faut avoir 3 000 $, mais si vous présentez ces montants d'argent-là, vous allez pouvoir participer à ces concours et gagner ces concours qui vous permettraient effectivement de venir étudier au Canada grâce à une bourse. Mais la condition pour y participer, il faut quand même démontrer que vous avez soit 3 000 $ pour la bourse d'excellence ou 15 000 $ dans les comptes pour la bourse d'exemption. Donc, voyez-vous que ça prend toujours l'argent, mais la bourse, j'avoue, ça peut alléger un temps soit peu la charge financière.
Est-ce que vous avez un site internet, les courriels ou un bureau où vous recevez des clients ici, des gens qui aimeraient bien collaborer avec vous dans le cadre d'accompagnement du processus d'inscription et puis d'installation pour les études au Canada?
Bien sûr que oui. Alors, pour aider les gens, notamment à répondre bien à leurs besoins, nous encourageons les gens à d'abord commencer par aller s'inscrire sur notre site internet. C'est www.étudie.ca.
Tout doucement, s'il vous plaît. Tout doucement. Oui. 3W, donc vous avez dit www.
Point étudie, et comme Emmanuel, et U comme Igno, D, Y, .ca, www.étudie.ca, ou les gens peuvent me contacter directement par mon numéro de téléphone.
Oui, c'est lequel?
819-342-4000. Donc, oui, je répète, 819-342-4000. Ça, c'est mon numéro personnel, directement, les gens peuvent me contacter et je vais pouvoir effectivement les aider. Mais je voudrais quand même tâter rapidement, si vous permettez, répondre à la question de, d'un auditeur qui a demandé pourquoi c'est si cher le Canada.
Mais
parce que le Canada se classe parmi les meilleurs pays du monde en termes d'éducation. Parce que ici, vous étudiez avec les meilleurs du monde. Vous avez les meilleures infrastructures de recherche du monde. Vous avez accès aux meilleurs professeurs du monde. Mais avec tout ça, c'est tout à fait normal que ça coûte extrêmement cher. Et puis, c'est moins cher par rapport aux États-Unis en passant. Donc, c'est encore moins cher par rapport aux États-Unis. Mais je vous assure, quand vous avez terminé au Canada, vous êtes parmi les tops du monde. Voilà pourquoi c'est cher.
Monsieur Emmanuel, merci d'avoir été avec nous hein, pour débattre de ces sujets, bien qu'il a les goûts un peu inachevés. L'État est parti à la tranche, est épuisé. Ce n'est qu'une partie remise. Hein. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine. Excellente journée au Canada. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.